Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Au Sénégal, la Cour des comptes a invalidé la semaine dernière les indicateurs donnés par l'ancien pouvoir. Le déficit budgétaire et la dette publique ont été recalculés à la hausse par la Cour, qui a relevé des anomalies et des manquements dans la gestion des finances publiques sous la présidence Macky Sall entre 2019 et 2024. La justice va maintenant enquêter et les auteurs présumés de malversations seront poursuivis, ont annoncé les nouvelles autorités sénégalaises. Le camp Macky Sall réfute ce qu'il appelle des accusations grossières et dénonce une machination politicienne. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité, comme tous les matins. La rédaction de RFI et des experts vous répondent. Direction la Côte d'Ivoire pour commencer. Alain, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en ligne d'Abengourou. En ligne avec nous, Binta Diagne, correspondante permanente de RFI à Abidjan. Bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous.
Alain, on vous écoute.
Chantal, effectivement, j'ai suivi sur RFI que deux cadres du parti de Laurent Gbagbo ont été condamnés à 10 ans de prison. Pourquoi la défense dit-elle que c'est un procès politique ? Ces condamnations risquent-elles d'affaiblir le PPHI à quelques mois de la présidentielle de 2025 ?
Alors, Binta Diagne, en deux mots, pouvez-vous d'abord réexpliquer qui sont les deux personnalités condamnées et les faits qui leur sont reprochés ?
Alors tout d'abord, Justin Koua est l'ancien porte-parole du FPI. Il a été condamné pour des faits qui remontent au mouvement de désobéissance civile lancé par plusieurs leaders de l'opposition en 2020, quelques semaines avant la présidentielle. La justice lui reproche d'avoir prononcé des appels qui auraient incité à la violence. Mercredi dernier, la justice l'a condamné pour trouble à l'ordre public, attentat contre l'intégrité du territoire et participation à un mouvement insurrectionnel. Et puis ensuite, il y a Damana Bikas. Il fait partie des cadres du FPI qui, après la crise de 2010, se sont exilés à l'étranger. Lui, il était au Ghana. La justice l'a notamment condamné pour atteinte à la défense nationale dans le cadre de l'attaque d'un camp militaire à Abobo survenu en avril 2021.
Pourquoi la défense affirme-t-elle qu'il s'agit d'un procès politique ?
Alors d'abord, à cause de leur statut, Justin Koua est aujourd'hui secrétaire général adjoint du PPACI, créé par Laurent Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire. Damana Bikas, lui, il est le deuxième vice-président du CSP, le Conseil stratégique et politique du PPACI. Et puis ensuite, au moment des plaidoiries, les avocats de la défense ont estimé que les dossiers étaient vides et qu'il n'y avait pas de preuves. À chaque fois que ce sont des partisans du PPACI, ce sont des procès, souligne Maître Tapi. Sa consœur, Maître Roselyne Akasserikpa, va jusqu'à parler de chasse aux sorcières. Cet avocat rappelle d'ailleurs que Damana Bikas avait marqué les esprits en 2010 lorsqu'il avait eu, je cite, l'audace de déchirer les résultats non consolidés de la commission électorale indépendante. Le parquet rejette de son côté toutes ces critiques. La qualité d'homme politique ne constitue pas une immunité, insiste le procureur de la République, qui est revenu jeudi dernier en détail au moment d'une conférence de presse sur tout le processus judiciaire qui a conduit à ces procès. Selon Draman Kone, les accusations se basent sur des faits. Y a-t-il des preuves ? Oui, selon lui. Un enregistrement audio qui incrimine Justin Koua, un témoignage d'un co-accusé de Damana Bikas qui raconte avoir été jusqu'au Ghana pour obtenir son feu vert pour préparer l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Damana Bikas était le financier de cette attaque, souligne le procureur. Ensuite, Draman Kone explique que les faits reprochés à Bikas et Koua sont criminels et, je le cite, « nous avions l'obligation d'ouvrir une information judiciaire ». Alors comment expliquer ce timing 9 mois avant la présidentielle, s'interroge un journaliste. C'est une pure coïncidence malheureuse, explique le procureur qui souligne que plusieurs affaires concernant la période de la désobéissance civile sont actuellement en train d'être jugées par les tribunaux.
Ces condamnations, Binta, risquent-elles d'affaiblir le PPACI à quelques mois de la présidentielle ?
Alors, a priori, non. Hein. Il faut noter d'abord que les cadres condamnés la semaine dernière sont ressortis libres du tribunal. Le juge n'a pas assorti sa décision d'un mandat de dépôt. Damana Picasse et Justin Coy peuvent continuer leurs activités politiques. Ils sont toutefois sous contrôle judiciaire et dans l'attente d'un procès en appel, car à ce stade, la condamnation prononcée par la justice n'est pas définitive. Et puis enfin, le PPACI maintient son programme de proximité sur le terrain. En effet, l'ancien président Laurent Gbagbo a entamé une campagne pour aller vers les citoyens. Il doit rencontrer les habitants d'Angré à Cocody le 1er mars prochain et il sera ensuite à Dabou les 4 et 5 avril prochains.
Merci beaucoup Binta Diagne pour ces explications. Alain, j'espère que vous êtes satisfait.
Oui, ça va. Juste saluer le président du Front Populaire Ivoirien, le président Pascal Afinguessa.
Eh bien voilà qui est fait. Merci beaucoup à tous les deux et bonne journée. Un nouvel attentat meurtrier en Allemagne. Une voiture a foncé sur un groupe de personnes jeudi dernier à Munich lors d'une manifestation organisée par le syndicat allemand des services, Verdi. Bilan 2 morts, une petite fille de 2 ans et sa mère de 37 ans et 37 blessés. Junior, bonjour.
Bonjour Madame Chantal et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa en RDC. En ligne avec nous de Berlin, Pascal Thibault, correspondant permanent de RFI donc à Berlin. Bonjour Pascal.
Bonjour Chantal, bonjour Junior.
Ben Junior, on vous écoute.
Oui, Madame Chantal, une nouvelle attaque à la voiture Bélier a fait 2 blessés à Munich. Que fait-on sur le profil du conducteur?
Alors, plus que de blessés, hein, plusieurs blessés et donc 2 morts, hein, puisque une mère et sa petite fille ont succombé à leurs blessures 2 jours après l'attentat. Pascal Thibault, qu'est-ce qu'on sait sur le profil donc de l'auteur présumé de cet attentat?
Alors l'auteur de l'attentat qui a foncé dans la foule, vous le disiez lors d'une manifestation pour de meilleurs salaires du syndicat des services Verdi avec sa voiture, est un jeune Afghan de 24 ans, Farhad N. Il était arrivé encore mineur en Allemagne en 2016. Il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il avait fait appel et lors de sa demande d'appel, le tribunal avait confirmé ce rejet. Il avait toutefois obtenu une autorisation de séjour grâce notamment à une formation pour être travailler dans la sécurité. Il n'avait pas de casier judiciaire et ceci dit, les enquêteurs estiment qu'il a agi pour des motifs islamistes. On a retrouvé notamment sur les réseaux sociaux un certain nombre de publications ou de choses diffusées qui montrent qu'il était très croyant et aurait agi pour des motifs religieux. Voilà ce qu'on peut dire quelques jours après cette nouvelle attaque à Munich qui succède à d'autres durant les dernières semaines.
Junior, vous avez d'autres questions pour Pascal?
Oui, c'est la troisième attaque en Allemagne en l'espace de 2 mois. Est-ce que cette situation pourrait influencer les résultats des élections législatives en Allemagne?
Il faut rappeler, hein, Pascal, que les électeurs sont invités à se rendre aux urnes le 23 février et que la politique migratoire est au cœur de la campagne.
Oui, effectivement, depuis au plus tard l'attaque contre le marché de Noël de Magdebourg juste avant les fêtes, suivie ensuite de l'attaque à Aschaffenburg en février et puis donc à Munich, effectivement la politique migratoire est au centre de la campagne actuelle pour quelques jours encore avec de nombreux débats, avec évidemment en pôle position entre guillemets l'extrême droite, l'alternative pour l'Allemagne qui est en deuxième position dans les sondages avec environ 20% des intentions de vote et qui évidemment cherche à utiliser ces attaques pour prouver qu'elle est la seule force capable de faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus pour prendre des mesures migratoires efficaces. Les autres partis sous pression font également des propositions pour durcir cette politique migratoire. C'est le cas des chrétiens démocrates avec leur candidat favori aux élections Friedrich Merz, mais aussi, on l'a vu, le chancelier Scholz. Dans quelle mesure cela a une influence sur les résultats, c'est difficile à dire, dans la mesure où les sondages sont relativement les mêmes depuis des mois quasiment. On n'a pas vu une percée supplémentaire de l'alternative pour l'Allemagne depuis ses premières attaques, mais cela peut malgré tout confirmer l'électorat de ce parti dans sa décision de voter pour cette force. En tout cas, on a eu une campagne beaucoup plus polarisée qu'elle ne l'aurait été si l'on avait parlé d'autres thèmes, à commencer par les sujets économiques et sociaux, très importants actuellement dans une Allemagne en crise.
Comment a été perçu en Allemagne le soutien d'Elon Musk à la présidente de l'AFD ?
Ça a suscité de très nombreuses critiques, bien évidemment, sauf dans les rangs de l'AFD où on s'est félicité de cet adoubement, en quelque sorte, par le milliardaire. Il y a eu de très nombreuses critiques, à la fois parmi les autres forces politiques qui ont dénoncé une ingérence inacceptable dans la vie politique allemande, d'un responsable, d'un milliardaire très connu, mais aussi de quelqu'un qui dispose, bien sûr, avec la plateforme X, d'un pouvoir d'influence important. Également beaucoup de critiques dans les médias aussi et sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas seulement le seul critère, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a vu beaucoup d'Allemands descendre dans la rue ces dernières semaines pour dénoncer le danger de l'extrême droite, mais aussi pour dénoncer l'adoption au Parlement d'une motion proposée par les chrétiens-démocrates et adoptée avec les voix de l'Alternative pour l'Allemagne.
Merci beaucoup Pascal Thibault pour cet éclairage. À très bientôt sur l'antenne. Junior, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous également. En Arménie, le Parlement a adopté mercredi dernier un projet de loi sur l'ouverture de négociations pour adhérer à l'Union européenne. Adam, bonjour.
Bonjour Madame Chantal et bonjour à vos invités.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. Tallinn Termination, bonjour. Tallinn Termination ?
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Vous êtes professeur en histoire contemporaine sur la Russie et le Caucase à l'INALCO. Merci d'être en ligne avec nous. Adam, c'est à vous, vous avez la parole.
J'ai entendu que l'Arménie serait intéressée de rejoindre l'Union européenne. Sur ce sujet, j'ai quelques questions. Pourquoi le pays veut-il rejoindre l'UE ?
Alors, Tallinn Termination.
Bon, les raisons sont tout à fait attendues, c'est-à-dire que rejoindre l'UE, ça représente un ancrage occidental, c'est l'espérance vague, mais quand même l'espérance d'un développement économique et puis surtout d'un développement économique alternatif et de relations de dépendance également alternatives. Donc c'est une espérance générale d'un rêve vers l'Occident, mais dont on peut dire en même temps qu'il est quand même en décalage complet avec l'actualité, notamment, comme vous avez dû le commenter, après les récentes annonces de J.D. Vance à la conférence de Munich, la question des Européens et de l'Ukraine. Effectivement, on peut se demander qu'est-ce que les Arméniens peuvent espérer de l'UE, si ce n'est que par cette campagne de signature. Il faut quand même préciser qu'il y a une campagne de pétition qui a rassemblé 52 000 signatures. C'est ce qui a conduit le gouvernement arménien à approuver et à envoyer ce projet de loi à l'Assemblée nationale arménienne. Bon, ces 52 000 signatures expriment l'espérance dans l'Europe, l'espérance dans la France, le côté francophile de l'Arménie et philo-arménien de la diplomatie française. Voilà, c'est comme ça que je comprends pour l'instant cette volonté à ce stade général.
Adam, vous avez une autre question.
Quelles conditions Erevan doit-elle remplir pour rejoindre l'Union européenne ?
C'est un parcours du combattant, hein, Tallinn Termination.
Oui, non, mais c'est évidemment un parcours du combattant, et c'est le même parcours du combattant que pour n'importe quel autre pays candidat, puisqu'on doit faire, il faut déposer un dossier à l'UE. Enfin, ça, c'est les conditions générales. Il faut qu'il y ait une décision unanime de tous les États membres de l'UE. Il faut en même temps prouver de manière assez compliquée, s'agissant de l'Arménie, qui, il faut le rappeler, est un petit État enclavé du Caucase, en prouver son identité européenne. Toutes ces conditions sont celles de n'importe quel candidat à l'UE, mais on a vu que les récents dossiers de candidature sont on ne peut plus problématiques. Il s'agissait de la Géorgie, mais la Géorgie, à la suite des récentes élections, a été renvoyée en quelque sorte dans la salle d'attente. Bon, quant à l'Ukraine, sa situation est également un peu plus problématique. Alors ça, donc déjà, ces conditions générales. Mais d'autre part, et ça prouve à quel point cette campagne pour l'UE ou même cette campagne de signature pour l'UE n'est quand même pas très sérieuse. C'est-à-dire que, en fait, si l'Arménie se trouvait déposer une demande d'adhésion à l'UE, il faudrait à coup sûr qu'elle se retire de l'union économique à laquelle elle appartient en ce moment, c'est-à-dire l'union économique eurasiatique, qui, comme vous le savez peut-être, Adam, est dirigée par la Russie.
Oui, donc peu de chance que la Russie laisse faire.
Il ne s'agit pas de le laisser faire, il s'agit tout simplement de la réalité de la dépendance économique de la Russie, de l'Arménie à l'égard de la Russie. Donc
merci.
Il ne s'agit pas simplement de décision politique, c'est tout simplement que, pour l'instant en tout cas, les Russes ont la commande des secteurs clés, notamment l'énergie et l'approvisionnement en céréales. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Taline Termination, d'avoir répondu à nos questions. Adam, j'espère que vous êtes satisfait. À bientôt. On va terminer en parlant de l'Ukraine, justement. Malgré sa demande, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a finalement fait aucune allocution lors du sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba. Alseni, bonjour.
Bonjour, madame Chantal.
Vous nous appelez de Monrovia au Libéria. En ligne avec nous, Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, chercheur associé chez Eurocréative. Bonjour.
Bonjour.
Alseni, on vous écoute.
Bien. Pourquoi le président ukrainien veut-il se rapprocher des pays africains? Alors, quels sont les enjeux pour l'Ukraine?
Ulrich Bouna, pourquoi Volodymyr Zelensky voulait-il intervenir, pas forcément en présentiel puisqu'il n'y avait pas été autorisé, mais il aurait dû en principe faire une allocution en visioconférence et elle n'a pas eu lieu?
Alors effectivement, donc il y a plusieurs objectifs pour l'Ukraine et c'est une offensive plus globale en fait vers ce que l'on appelle le sud global et donc effectivement l'Afrique est un lieu de confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Les Ukrainiens avaient complètement déserté, on va dire, l'Ukraine à la fin de l'Union soviétique et on sent bien depuis 2022 qu'ils essayent effectivement de regagner un petit peu de sympathie au sein des pays africains et qu'ils essayent aussi effectivement d'y contrer l'influence russe. Mais comme on a pu le voir avec cette invitation finalement retirée, c'est que c'est extrêmement compliqué. Certes, les Ukrainiens ont ouvert une dizaine d'ambassades depuis 2022 dans les pays africains, mais ils sont pour le coup en conflit ouvert avec d'autres pays africains, notamment ceux qui sont très proches de la Russie, comme les pays du Sahel.
Et comme l'Angola aussi, qui apparemment a mené la fronde.
Tout à fait, effectivement. Donc l'Angola, qui récupère la présidence tournante de l'Union africaine, a effectivement, grosso modo, opposé son veto, puisque finalement l'Angola est un pays qui reste relativement encore proche de Moscou, tant au niveau des hydrocarbures qu'au niveau de son armée qui a été financée et armée par Moscou.
Aujourd'hui se tient une réunion à Paris pour des discussions sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Au moment où l'administration américaine s'en prend à l'Union européenne et on voit bien tente de négocier directement avec la Russie pour trouver une issue au conflit, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion qui s'ouvre aujourd'hui à Paris ?
Alors visiblement, il n'y aura pas de communiqué final commun, donc il n'est pas évident qu'on puisse avoir des décisions, mais en revanche, on voit bien, notamment avec la déclaration de Keir Starmer cette nuit sur l'envoi de troupes, que l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine pour garantir de la sécurité de l'Ukraine et surtout peser dans d'éventuelles négociations et finalement forcer à avoir voix au chapitre dans ces négociations, ça va se jouer là dans les prochains jours. Il y a une accélération du tempo et on voit bien que les Européens vont être obligés d'arriver avec des propositions extrêmement sérieuses, que ce soit en termes de déploiement de troupes, que ce soit en termes d'investissement financier dans le soutien à l'Ukraine et dans le réarmement de l'Europe. Et donc ces décisions vont devoir tomber très rapidement si l'Europe veut avoir accès à la négociation sur l'avenir de la sécurité de l'Europe, parce que c'est ça qui se joue en Ukraine.
Le président Zelensky a annoncé samedi avoir refusé de signer un accord avec les États-Unis portant sur des minerais ukrainiens, les terres rares, en estimant qu'il ne protégeait pas à ce stade son pays. Il aurait voulu que l'accord garantisse la sécurité, que les États-Unis garantissent la sécurité de l'Ukraine. Est-ce que ça, c'est un levier important qui va forcer Washington à associer l'Ukraine à toute négociation, toute sortie de crise avec la Russie? En deux mots.
C'est un peu comme ça qu'effectivement les Ukrainiens le voient, c'est-à-dire que toutes les concessions qu'ils envisagent de faire aux États-Unis, c'est effectivement une façon d'espérer obtenir une voix au chapitre et surtout une garantie de sécurité de la part des États-Unis, notamment en termes de fourniture d'armes.
Merci beaucoup Ulrich Bouna pour ces explications. Bonne journée à vous.